Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussaou Pondé.
$1,5 milliard de droits de tirage spéciaux, $1,5 milliard de facilités élargies de crédit. C'est l'appui du FMI dans le cadre du renforcement de réserves en devise de la RDC annoncé hier par la directrice générale du FMI à l'issue de ses rencontres à Kinshasa avec le Premier ministre et le chef d'État. La RDC et l'Ouganda doivent mutualiser leurs efforts pour combattre leur ennemi commun, l'ADF. La déclaration est du ministre congolais de la Défense et son homologue de l'Ouganda hier à Bunia. Les deux personnalités sont optimistes quant à la réussite des opérations conjointes contre les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu. Notre invité est Abdulaziz Choy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH plaide pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des défenseurs des droits de l'homme. Bonjour à tous. La RDC va bénéficier tout prochainement de $1,5 milliard des droits de tirage spéciaux de la part du FMI, en plus de la facilité élargie de crédit d'également $1,5 milliard en cours de décaissement. Il ne s'agit pas d'une dette, mais d'un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devise du pays. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, l'a annoncé hier mercredi après des rencontres qu'elle a eues, premièrement avec le Premier ministre et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. La directrice du FMI est en visite de 3 jours en RDC, durant lesquels elle va se rendre compte des réalisations du gouvernement dans les cadres du programme triennal avec le Fonds monétaire international. Billy Vandutumba.
La directrice de la FMI a manifesté sa satisfaction du fait que la RDC a une croissance qui est projetée à 4,5% cette année et à 6,4% l'année prochaine. Ceci à la faveur des prix de ses matières premières et des réformes entreprises par le gouvernement, avec en tête le président Félix Tshisekedi. Pour Kristalina Georgieva, à la suite donc de ces progrès,
nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec des réserves de plus. Et les discussions sont en cours pour que la RDC puisse également figurer parmi les pays qui bénéficieraient de ces 100 milliards de dollars que le FMI est en train de mobiliser auprès des économies fortes. Et donc j'étais très intéressé à savoir comment est-ce que son Excellence le Président Tshisekedi entrevoit de pouvoir créer un environnement favorable au développement des affaires. Et nous avons donc abordé avec les chefs de l'État ainsi que le Premier ministre l'importance de la numérisation du pays, mais également la nécessité de pouvoir améliorer les infrastructures du pays pour appuyer la croissance.
La directrice des FMI a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son institution à militer pour que la RDC bénéficie des fonds en contrepartie du service que le pays rend au monde entier à travers le bassin du Congo et sa forêt en absorbant des quantités importantes de dioxyde de carbone.
Vers l'harmonisation des points de vue entre les producteurs agricoles de Massissi et les commerçants de la ville de Goma, un contrat d'harmonisation est en cours de signature entre les deux parties. Ces dernières ne s'accordaient pas quant à la fixation des prix de produits agricoles. C'est l'une des retombées de la mini-foire agricole clôturée hier mercredi à Goma, organisée par la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, FOPACA en sigle. Cette rencontre agricole avait pour objectif de créer un cadre d'échange et des connexions pour une éventuelle contractualisation entre les producteurs agricoles de Massissi et les acheteurs potentiels dans la ville de Goma. Denis Lukesu.
Outre l'exposition des produits agricoles tels que la pomme de terre, les haricots, l'arachide, les participants à cette mini-foire agricole ont discuté aussi sur les opportunités d'affaires relatives aux chaînes de valeur identifiées. Regroupés dans leurs coopératives respectives, ces producteurs ont évoqué les problèmes qu'ils rencontrent, problèmes qui sont des quatre ordres. Ils espèrent que cette foire agricole est l'une des réponses à leurs multiples préoccupations. Alphonse Barimba, de la coopérative des producteurs agricoles de Taruba.
La fixation des prix là imposés par les acheteurs, les systèmes de mesurage là qui dépassent. Il y a aussi cette question là d'écoulement avec les mauvais états des routes et la difficulté d'accès au crédit pour qu'on ait l'autonomie de fixer les prix. Il y a les prix que nous harmonisons avec ADVV, il y a aussi les mesurages où nous allons utiliser les kilos pour qu'on sache 1 kilo c'est autant, 100 kilos c'est autant.
Le coordonnateur provincial de l'ADVV, Muindo Tehanga, s'est réjoui de cette rencontre qui a permis à trouver un compromis au problème qui les divisait. Cette foire de 2 jours qui s'est clôturée ce mercredi avait pour thème « Connecter les producteurs agricoles aux acheteurs ». Elle a été organisée par la FOPAC avec ses partenaires dont Oxfam et Grande-Bretagne.
Rendons-nous en Ituri où le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda poursuit depuis hier ses consultations avec les différentes couches de la population. Après les membres du comité provincial de sécurité qui ont été reçus mardi, Gilbert Kabanda a échangé hier avec les chefs coutumiers et ceux des communautés locales. Au centre de leurs échanges, l'évaluation de l'état de siège ainsi que la recherche des pistes de solutions pour le rétablissement de la paix en Ituri où des groupes armés commettent des graves violations de droits de l'homme. Martial Kizabiamungu.
Les ministres de la Défense nationale Gilbert Kabanda organisent ces consultations accompagnés des parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu, des provinces sous état de siège. Son arrivée mardi soir, il a rencontré les membres du comité provincial de sécurité et certains commandants des unités engagées dans les opérations militaires à l'Ituri. Hier mercredi, ce sont les chefs coutumiers qui ont été consultés. Ces derniers ont formulé certaines recommandations, notamment la dotation des moyens financiers et logistiques au FRDC et les renforcements de leur effectifs pour éradiquer les groupes armés en Ituri. Ils ont aussi demandé au ministre de la Défense d'échanger des stratégies dans les opérations militaires pour bien contenir l'ennemi. Par ailleurs, ils affirmaient leur soutien aux opérations militaires conjointes entre l'armée ougandaise et les FRDC. Dans la soirée, le ministre de la Défense a poursuivi ses consultations avec les communautés Ema, Bira et Lendu. L'objectif est d'évaluer l'état de siège depuis son instauration par les chefs de l'État et de réfléchir sur des pistes de solutions visant à mettre fin aux exactions des groupes armés à l'Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le ministre congolais de la Défense et son homologue de l'Ouganda se disent optimistes pour la réussite des opérations conjointes contre les groupes armés qui sont actifs en Ituri et au Nord Kivu. Ils ont déclaré que les deux pays doivent mutualiser leurs efforts pour combattre leur ennemi commun, l'ADF. Ils l'ont dit hier mercredi à la presse après une rencontre à Bounia, chef-lieu de la province. Encore une fois, Martial Kizabiamungu.
La RDC et l'Ouganda sont deux pays frères et lorsqu'il y a un problème qui se pose dans un de nos pays, on doit se concerter pour trouver une solution à ces problèmes, déclare le ministre de la Défense de l'Ouganda, l'honorable Vincent Bamalangashi. Pour lui, les opérations conjointes entre l'armée ougandaise et le FRDC doivent être un succès pour mettre fin au phénomène des ADF.
Nous sommes voisins et quand il y a un problème chez un voisin, nous sommes obligés de résoudre cette affaire.
Les ministres congolais de la Défense et en se combattant s'est également montré optimiste sur la réussite de ces opérations conjointes pour la pacification de l'Est de la RDC. Gilbert Kabanda ajoute que la clé des succès est la détermination des deux pays.
Deux grands pays comme l'Ouganda et le Congo qui sont attaqués, ils ne peuvent pas ne pas réussir, je parie. Vous savez, une guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand ou comment on la termine, mais l'essentiel, c'est la détermination des deux pays.
Signalons que les deux autres vont faire une déclaration commune à la fin des travaux qui ont débuté ce mercredi entre les experts de l'Ouganda et de la RDC. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et pour clore ce chapitre, sachez que les armées congolaises et ougandaises devraient prochainement mettre en place un commandement conjoint pour la conduite des opérations contre les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Selon des sources militaires, les FRDC et l'UPDF veulent une coordination efficace sur terrain entre les deux armées pour la réussite de ces opérations lancées à Beni le 30 novembre dernier et qui devraient s'étendre en Ituri. Suivez les explications de Martial Papimoukeba.
Des sources militaires parlent des démarches en cours pour la mise en place rapide d'un état-major de commandement conjoint entre les armées congolaises et ougandaises. C'est cette structure autonome des secteurs opérationnels de Beni et de l'Ituri, constituée des officiers des deux armées qui devraient coordonner et conduire les opérations contre les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Elle devrait être placée sous le leadership des FRDC pour des raisons de respect de la souveraineté de la RDC, font savoir les mêmes sources militaires. Un officier congolais devrait être nommé pour son commandement
commandement. D'après les mêmes sources, c'est après l'installation de ces commandements conjoints et le déploiement des troupes ougandaises et congolaises dans certaines zones ciblées de Beni et de l'Ituri que devraient s'accélérer les offensives contre les ADF. Le 30 novembre dernier, l'armée ougandaise a mené des frappes aériennes et d'artillerie depuis son territoire sur des positions des rebelles ADF à Beni, lança une opération conjointe avec les FRDC visant ces groupes armés responsables des tueries et des graves violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En justice, le policier Paul Mouilamboué, l'un des témoins clés dans l'affaire sur le double meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana de retour d'exil depuis 10 ans, a comparu hier mercredi devant la haute cour militaire siégeant en foraine à la prison militaire de Ndolo. Il charge plusieurs personnalités, dont le président honoraire Joseph Kabila et le général John Numbi. Selon le ministère public, le prévenu cherche à se disculper comme s'il n'avait pas joué un rôle dans ce crime. Pour les parties civiles, il faut que toutes les personnes citées comparaissent dans une confrontation. Reportage de Jeff Ngoy.
Quand le téléphone sonne, le général répond des causes. Ça, c'est le général de Numbi qui appelle. Il parle en swahili. Est-ce que Oudi Chapata appelle la Raïs?
Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs?
Le général répond et dit non. Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général répond en swahili. Est-ce que Mouilamboué est copain?
Est-ce que Mouilamboué est là?
On est parti en aller pour Simo.
Passe-le-moi au téléphone.
Et quand il m'a passé au téléphone, le président m'a dit que si Mouambi est Ponde, il est membre ou Lyon.
Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu.
La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même.
Paul Mouilamboué confirme ces révélations faites auparavant dans les médias. De qui est venu l'ordre de tuer Chebeya?
Général Numbi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté.
Réaction du conseil des parties civiles avec maître Peter Ngomo.
On a demandé que tous ceux qui ont été cités comparaissent. Donc c'est maintenant la cour de voir.
Condamné par défaut pour assassinat, désertion simple, meurtre, association de malfaiteurs, terrorisme, le major Paul Mouilamboué comparaîtra prochainement le vendredi.
Après quelques semaines de rupture de stock de produits alimentaires à la prison centrale d'Iziro dans la province du Haut-Ouélé, la situation est redevenue normale. Selon le ministre provincial en charge de la justice et des droits humains, une enveloppe a été mise à sa disposition par l'autorité provinciale afin de couvrir les besoins alimentaires des détenus de la prison centrale d'Iziro et de ceux de Dungu. Explication de Martin Aladro. Il a été joint au téléphone par Jacques Mkonkolé.
À l'heure où je vous parle, ils sont bel et bien servis. Le point, c'est le point des prisonniers des Siro, mais aussi ceux des Dungu. L'enveloppe commence à disponibiliser. Ils sont servis des prisons. Parce qu'à Haut-Ouélé, nous en avons trois. Nous avons la prison centrale des Siro, la prison centrale des Dungu, ainsi que les celle de Ouata. Donc, à l'heure où je vous parle, la situation des prisonniers des Siro est déjà décadée. En même temps, c'est des Dungu. Au début de la semaine, l'autorité m'a promis de résoudre aussi les problèmes des Alors, il n'y a plus rien à sécuriser. Le problème est déjà résolu.
C'est depuis quand que ce problème est résolu?
Quand vous parlez de ce problème, c'est le problème nutritionnel, le problème de ration alimentaire qui, en fait, le stock était vraiment rupture et que c'était suite, comme vous le savez, la province de Haut-Ouélé était de la quai de la première dame qui n'a pas aussi oublié certains secteurs, notamment les prisonniers, mais les prisonniers sont déjà résolus en termes de ration alimentaire.
Autre nouvelle, Honore Oubangui, le gouverneur de province vient de démissionner mercredi de ses fonctions. Isato Zegbe a déposé sa lettre au chef de l'État à Kinshasa, ce même mercredi où l'Assemblée provinciale a voté la motion de censure contre tout son gouvernement. Ainsi, l'organe délibérant demande au vice-gouverneur de gérer la province à titre intérimaire jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Alors qu'il a été réhabilité par la justice après sa déchéance le 12 décembre 2020, le gouverneur Isato Nzégué a encore fait récemment l'objet d'une interpellation. Il était tenu cette fois à une évaluation à mi-parcours de sa gestion du Nord Oubangui. Mais son absence de la province et son manque de réaction ont suscité l'indignation des députés provinciaux, lesquels ont saisi le chef de l'État pour outrage du gouverneur à leur institution. Certains ont finalement transformé l'action en motion de censure contre tout le gouvernement, ce qui a paru comme un acharnement pour Isato Nzégué. Et l'a poussé à déposer sa démission ce mercredi au chef de l'État.
Pour ma part, ces conditions de travail sont tellement précaires et
délétère. Au vu de toute cette pression, ça se prouve carrément un acharnement. C'est comme ça que nous avons demandé le présentateur de l'émission pour un respect et un rendement pour les institutions.
Cependant, ce même jour, l'Assemblée provinciale réunie en plénière a aussi voté à l'unanimité la motion de censure qui a fait tomber le gouverneur et tout son exécutif. Mais le vice-président de l'Assemblée, Achille Kwangbo, a rejeté l'idée d'un quelconque acharnement.
Acharnement dans quel sens? Parce que quand vous gérez une affaire publique, il faut savoir rendre compte. Je crois qu'il y a que la conséquence politique logique de tous les griefs portés à sa charge.
Enfin, Achille Kwangbo a précisé que le vice-gouverneur va continuer à gérer la province à titre intérimaire jusqu'à l'élection d'un nouveau gouverneur du Nord-Ubangi. Bandaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, l'omniprésence du variant Omicron permet d'observer son comportement sur les personnes infectées. Nectar, l'un des plus grands groupes de santé privée du pays avec une cinquantaine d'hôpitaux, a publié un communiqué pour faire part de ses premières constatations avec un recul de 3 semaines. Le groupe hospitalier livre des informations encourageantes. Le variant est plus contagieux, mais sous une forme moins grave de COVID-19. Plusieurs limogeages ont eu lieu à la tête de la Banque centrale de Guinée mardi 7 décembre. Le nouveau régime militaire de Mamadi Doumbouya a destitué Luncheni Kaba, qui dirigeait la Banque centrale de la République de Guinée depuis 10 ans, ainsi que les 2 vice-gouverneurs. 3 nouveaux responsables ont été nommés.
L'invité.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme plaide pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des défenseurs des droits de l'homme. C'est ce que déclare le directeur du BCNUDH à l'occasion de la journée des défenseurs des droits de l'homme. C'est 9 décembre. Abdulaziz Choy s'entretient avec Sifa Maguro.
Monsieur le directeur Abdulaziz, bonjour.
Bonjour.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Qui peut être considéré comme défenseur des droits de l'homme?
En vérité, il n'y a pas de réponse précise à la question de savoir qui peut être défenseur des droits de l'homme. Je voudrais juste rappeler ici que la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme du 9 décembre 1998 parle d'individus, de groupes, d'associations qui contribuent à l'élimination de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc vous voyez, la définition est large, c'est un éventail assez fourni qui comprend des organisations intergouvernementales, des individus avec l'Internet et les nouveaux outils d'information et de communication. Vous pouvez, individu, rester derrière votre ordinateur et être bon défenseur des droits de l'homme dans le sens où vous êtes au diapason d'un certain nombre de problèmes qui se posent et vous avez la possibilité de les rendre visibles et de peut-être contribuer ainsi à faire du plaidoyer et augmenter le niveau de protection de ces droits-là. Donc, la femme qui est dans un coin reculé, le jeune qui participe à la conscientisation des membres de sa communauté, qui participent à essayer d'analyser leur environnement immédiat en termes de droits de l'homme et essayer de développer des plaidoyers pour un mieux-être, pour un meilleur respect de tout ce qui est droit de l'environnement, droit à la santé, l'eau, l'assainissement, tous les droits économiques, sociaux et culturels, en plus de tout ce qui est droit civil et politique. Vous, journalistes, vous êtes défenseurs des droits de l'homme, un médecin, un policier, même un militaire, un magistrat, tout individu, quel que puisse être sa profession, a la possibilité effectivement de concourir à la protection et à la promotion des droits de l'homme et d'avoir le titre de défenseur des droits de l'homme.
Vous dites que c'est une personne qui défend publiquement le droit de l'homme universellement reconnu, mais est-ce que cette personne bénéficie d'une protection internationale ou nationale dans le cadre de cette mission?
Absolument. Au niveau national, les États se doivent d'accorder une protection spéciale aux défenseurs des droits de l'homme contre des intimidations, contre des menaces sur l'intégrité physique, contre des privations de liberté, parce qu'en réalité, ils contribuent à un intérêt public. Ici, en République démocratique du Congo, il y a en effet une proposition de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui est en gestation, qui normalement aurait dû déjà être adoptée, promulguée, mais qui a connu quelques difficultés qui sont aujourd'hui en train d'être rediscutées dans le circuit législatif avec la CNDH, avec notre soutien et le soutien d'autres associations de la société civile qui ont à cœur de voir effectivement cette proposition de loi être adoptée et votée définitivement pour véritablement créer un cadre clair de protection pour les défenseurs des droits de l'homme.
Quels constats et recommandations faites-vous pour une meilleure protection et promotion des défenseurs des droits de l'homme en RDC?
Le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme l'homme et le démembrement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, parmi les entités des Nations Unies, a la responsabilité d'appuyer les États membres à s'acquitter de leurs obligations. Tous les instruments internationaux qui ont été ratifiés par les États doivent faire l'objet d'une domestication et d'une application. Donc, notre rôle est de travailler avec les autorités nationales, gouvernement, parlement, ainsi que les forces de sécurité et de défense et la société civile pour nous assurer effectivement que les obligations qui ont été prises par l'État sont véritablement en train d'être observées. Cela à travers l'observation de situation, mais également l'appui technique, ce qu'on appelle la coopération technique, pour améliorer le cadre normatif, les politiques, les programmes, renforcer les capacités, parce que aussi les violations, quelquefois, viennent du manque de connaissances.
Le monde entier célèbre chaque 25 novembre la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Avez-vous un message particulier à l'endroit des défenseurs du droit de l'homme?
Je voudrais rendre hommage à ces femmes, je les mentionne tout à l'heure, qui ont payé de leur intégrité physique. Vous pouvez comprendre qu'une des violences sexuelles exercées sur les femmes en raison de leur activité légitime est un sacrifice suprême. C'est inacceptable que cela puisse se passer. Combien il est important, dans le cadre de ces jours d'activisme, de leur rendre hommage. Parce qu'en fait, elles travaillent dans le silence. Courageusement, avec tous les risques que cela comporte, ou qui acceptent de venir témoigner déjà dans un procès. Je salue ce travail-là et le courage des femmes, dont la contribution est inestimable dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous allons nous serrer les coudes pour essayer de pousser un peu plus loin les limites qui, aujourd'hui, peuvent exister dans le cadre de l'exercice des activités des défenseurs des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.